Bonjour, c'est Julien Blangras, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti. Pop-popien, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Grâce à Dieu, nous avons deux bonnes nouvelles aujourd'hui pour nous consoler de la disparition du grand Karl. D'abord, grâce à Dieu, le film de François Ozon est sur les écrans, en dépit des efforts déployés par les ecclésiastiques incriminés pour en interdire la sortie. Par un effet mécanique, de vastes communicants, voici donc un film qui va vider un peu plus les églises pour remplir davantage les salles de cinéma pour, comme le recommandent les écritures, rendre à César ce qui appartient à César. Pile la semaine des Césars, justement. Vous savez, cette soirée où de jeunes comédiennes reçoivent des trophées, comme par exemple celui du meilleur espoir féminin, et du coup reviennent l'année suivante découvrir le nom de celle qui leur succède, même que parfois elles s'appellent toutes Judith. Lol. Et je me permets au passage une de ces légères digressions dont j'ai le secret. Je me suis retrouvé maintes fois sur la scène des Césars et à chaque fois cette expression espoir féminin a froissé mes délicates oreilles tant je la trouve pléonastique. Qui dit femme dit espoir et pas que pour la soif, ce qui m'amène à la deuxième bonne nouvelle puisque nous recevons aujourd'hui une ex-espoir devenue femme et surtout une icône aussi bien du cinéma que de la chanson. Une double icône donc, deux icônes chez deux cônes, moi je dis c'est le paradis.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Deux icônes chez De Caunes, c'est le paradis.
Ouais.
Non.
C'est beau.
On assume ça. Bon. À mes côtés, celle pour qui le nom De Caunes ne sonne pas quotidiennement avec paradis, Charline Roux.
C'est faux Antoine, vous le savez bien. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Bonjour Charline. Au menu également de Pop Pop Pop, nous ferons un détour par la planète pop de Ronan Crowe pour répondre à la question « Faut-il brûler les comédies romantiques ?» On a déjà la réponse Vanessa.
Oh non.
Bah, évidemment que non. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais avant, il existe une question à laquelle aucun invité ne peut échapper. Et cette question, c'est... Pour vous, Vanessa, c'est quoi la pop culture? Alors, attendez, parce que pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses paralysantes, purgatoriennes, en fer italique ou simplement sourcillantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Mathieu Chédid, alias M. Écoutez.
Je dirais que c'est pour moi bizarrement l'art majeur. Justement, je pense à Serge Gainsbourg, je pense à Coluche, Prince, Stevie Wonder, c'est-à-dire des gens comme ça, pour qui c'est très accessible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous va droit au cœur, qui est très universel et en même temps d'une subtilité absolue. Et je crois que les grands artistes, c'est cela, c'est ceux qui réussissent comme Mozart ou plein d'autres, c'est-à-dire à synthétiser quelque chose pour que ça paraisse très très simple, alors que c'est vraiment d'une complexité rare.
Rendre simple ce qui est complexe.
Elle est bien sa définition. Parce que nous, on s'est vu il y a 6-8 mois, et j'avais donné la mienne, ça me semblait peut-être un peu bête à dire, mais c'est l'art populaire, effectivement, mm-hmm. C'est l'art qui touche les gens. Mais il l'a très bien dit, Mathieu, quoi. C'est vrai, les gens qui ont l'art de synthétiser quelque chose qui rassemble les autres et qui les touche et qui rassemble, ouais, c'est bien.
Très bien, ok. Eh ben, je prends celle-ci en plus de la précédente. La pop culture, c'est notre point commun, Vanessa, et ça tombe bien. On va en parler jusqu'à 17h, mais pour l'heure, on va écouter Kiev, extrait de votre nouvel album, Les Sources. Vanessa Paradis, cet extrait du septième album de Vanessa qui s'intitule Les Sources. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée avec qui j'ai partagé il y a longtemps une émission. Et oui, avec Vanessa des Minicum. Mais oui,
mais
bien
oui,
sûr.
Coco. Mais
enfin. on était tous les deux personnages de Minicum.
Mais
c'est
oui,
moi, j'avais oublié, totalement oublié
mais
ça.
Oui, moi aussi, mais enfin bon. Mais Vanessa, vous n'êtes pas que la Vanessa des Minicum. Non, la preuve avec votre pop portrait. Alors votre pop portrait, c'est votre portrait, mais
à base de pop.
Et c'est signé Charline.
Même si j'en crève d'envie, encore aujourd'hui, non, je ne vais pas, comme la dernière fois, énumérer toutes les raisons pour lesquelles j'aime Vanessa Paradis. Ses chansons, son souhait de pêche de Joe le Taxi, ses rôles, ses cheveux courts ou longs, sa discrétion tout en ayant de l'attitude. Bon, bah si j'énumère, hein, voilà, je m'en fous. Ah oui. Mais surtout que je peux en ajouter des détails, parce qu'il y en a de nouveaux depuis votre venue en juin dernier. Par exemple, mon meilleur remède pour lutter contre la morosité, en vrai, c'est de regarder Vanessa danser sur scène, dans des films, dans des clips, à la télé. Et je l'ai réalisé en regardant les dernières victoires de la musique. Je passais une soirée un peu pourrie et hop, Vanessa a levé les bras, esquissé trois déhanchés, pouf, j'étais bien. Alors vous vous dites que ce semblant de portrait ne peut pas devenir plus creepy.
Non.
Si, si. Parce que je peux aussi ajouter un autre truc ici, c'est qu'en plus de toutes ces qualités, Vanessa, elles sont hyper bons. Et je m'en suis rendu compte la dernière fois quand elle est venue, elles sont hyper bons. Mm-hmm. Alors vous le savez, Antoine, hein, vous tous et tous les popopiens et popopiennes, j'ai deux amours.
Oui, votre pays est Paris.
Non.
Non, votre famille peut-être.
Non, enfin oui, mais pas là en fait. J'ai deux amours, Vanessa Paradis et Florence Foresti. Alors forcément, parole à cette dernière pour parler de notre invitée.
Et t'as vu le nombre d'artistes qu'elle a inspiré, Vanessa, je veux dire, le nombre d'auteurs qui ont écrit pour elle, c'est dingue, t'as vu Serge Gainsbourg, Lenny Kravitz, Mathieu Chédid, Gaëtan Roussel, Benjamin Biolay. Putain, mais moi tu crois qu'il y en aurait un qui sortirait les doigts du cul pour m'écrire une ligne?
Je me pose le même genre de questions.
Un petit conseil pour Florence Foresti, peut-être, Vanessa?
Oh là, je crois pas qu'elle ait besoin de conseils. Hein. Comment elle mène ça, son truc et tout, puis elle nous fait bien rire, on l'adore.
Bon, Vanessa, je baisse maintenant la lumière du studio pour vous poser des questions indiscrètes. Qu'est-ce qui vous fait frémir? Qu'est-ce qui vous fait rougir? Chut, ne me répondez pas tout de suite, attendez le jingle. Hop. Mais oui, c'est la pop-liste. Je plaisantais. Bon, d'accord. Nous vous avons demandé de choisir, Vanessa, un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez porté votre choix sur Dan Frank, Le vol de la Joconde, un livre qui n'est pas encore sorti. Charline, Ghislain Fontanus, notre réalisateur, s'est exclamé en découvrant ce choix. Dan Frank, oh, j'ai adoré son journal. Pouvez-vous lui expliquer? Je crois que j'ai plus la patience, moi.
Oui, je peux, Antoine. Ça se déroule en 1911 à Paris et on a volé la Joconde. Un certain Jerry Pierret, voleur et grande gueule, déclare dans la presse être l'auteur du crime et ne pas en être à son premier. Il aurait aussi volé au même musée d'autres œuvres qu'il aurait revendues à un peintre parisien. Et comme Pierret fut un temps le secrétaire de Guillaume Apollinaire, on en déduit que le dit peintre n'est autre que Pablo Picasso.
D'accord. Alors, le livre Le vol de la Joconde sort le 1er mars, dans quelques jours. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en lire un extrait en avant-première, Vanessa?
Oui. Alors j'y vais, direct. Bah, d'accord. Personne ne m'en voudra de coudre mes pages en mêlant les années 1904 ou 1911. Après tout, ça ne change pas grand-chose au tableau qui m'intéresse. Tresser les lauriers à ceux que j'appelle les anarchistes. Beaucoup étaient les réfugiés de leur temps. S'ils étaient entendus aujourd'hui par un juge d'instruction, comme ils le furent à leur époque, nul doute que leur pire crainte se fût réalisée. Picasso et Apollinaire auraient été expulsés. Mmh. Et ouais, c'est
texte d'une actualité brûlante.
Ouais, oui, brûlante et qui remet bien les choses à leur place, je trouve, quoi. Et puis tout en parlant de d'art et de ses artistes et de Paris et de la France, voilà. Et c'est un passage qui m'a plu de vous lire aujourd'hui parce que voilà, il parle terriblement de nous aujourd'hui. Mais ce livre, c'est tout. Il y a plein d'autres choses. Ce qui est merveilleux, c'est que on a l'impression de connaître Apollinaire et Picasso. Enfin, de les connaître, ils ont 20 ans, 25 ans.
De les voir de près.
Les voir de près. Alors, il y a un sujet très, très vrai qui est le vol de la Joconde et puis le fait que Apollinaire et Picasso et que beaucoup de gens se servaient librement dans le Louvre à l'époque. Après, Dan Frank, c'est un écrivain, il romance tout ça, mais donc on est dans le Paris du début du 20e siècle. On parle de ces gens-là, mais de Matisse et de Van Dongen et tout ça. Et en fait, on les voit plus dans leur vie de tous les jours, de comment ils se vannaient entre eux, comment ils se piquaient leurs femmes ou leurs hommes, comment ils crevaient la dalle pour vivre et qu'ils n'avaient pas encore tous les lauriers
qu'ils ont reçus après.
Voilà. Et donc, c'est délicieux de lire ce livre. C'est drôle, c'est léger. Et profond à la fois.
Le vol de la Joconde de Dan Frank qui sort le 1er mars et je crois que vous avez donné envie à tout le monde de le lire. Merci. Alors pour le film, vous avez choisi César et Rosalie de Claude Sautet. Charline, j'ai animé maintes fois les Césars mais je n'ai jamais rencontré Rosalie. Est-ce que c'est celle que Claude Sautet?
Sachez qu'à cet instant précis, je vous juge, Antoine Decaune. Et sinon, le film raconte l'histoire de deux hommes, César et David, Montand et Frey, qui se disputent la même femme, Rosalie. Et comme c'est Romy Schneider, on comprend qu'ils se la disputent et ils finissent par devenir amis.
Extrait.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord. Alors, intelligent? C'est pas Marcel Proust, excuse-moi.
Je t'excuse. J'aime cet endroit.
Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
Elle est belle, cette musique de Sautet. Hein, la musique du jeu. Là.
Ah, là, là.
Alors, pourquoi ce film de Sautet en particulier, Vanessa Paradis?
Bah, souvent, enfin, d'ailleurs, la dernière fois, je vous ai parlé d'un autre film, mais c'était pour parler d'autre chose aujourd'hui. Mais ce film, je l'aime autant que celui que j'entends sous la pluie dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est... Je trouve souvent que les films qui nous sont cultes, ils viennent souvent de l'enfance. Enfin... Évidemment, peut-être à condition que l'enfance soit
heureuse.
Oh, heureuse, exactement. Et la mienne, elle était très heureuse. Et voilà, et César et Rosalie, tous les films de Claude Sautet, mais celui-là en particulier, c'est dans mon ADN. J'ai regardé ça toute petite et je l'ai regardé toute ma vie. Et surtout pour Romy Schneider, mais j'ai une passion pour Yves Montand aussi. Il me rassure, il me plaît. Je le trouve extraordinaire, quel acteur, quoi. On parlait tout le temps du personnage qu'il était, mais il est bouleversant. Ouais. Moi, il me bouleverse. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose de très familier chez lui. Mais je suis une dingue de Romy Schneider, surtout que je trouve merveilleuse, même sans la voir, là. Mmh. Juste en entendant sa voix, je suis éblouie, parce qu'elle avait une voix et un accent magnifiques.
Vanessa Paradis pour la série culte The End of the Fucking World, c'est votre choix. Alors, Charline, mon anglais manque de précision. Comment traduiriez-vous The End of the Fucking World, sachant que des enfants et Ronan Crowe nous écoutent?
La fin de ce satané monde, dites-moi donc. Un truc dans le genre, non? C'est moins efficace, hein, on mange d'un seul coup. Mmh. L'hilarant et grinçant road trip entre un ado psychopathe et une ado rebelle.
Je m'appelle James, j'ai 17 ans, et je crois que je suis un psychopathe. Quand j'avais 9 ans, mon père a acheté une friteuse. J'y ai plongé la main. Je voulais ressentir quelque chose. J'étais bien au-dessus du lycée, mais c'était un lieu d'observation et de sélection idéal. J'avais un plan. Je voulais tuer quelque chose de plus gros. Salut.
Je t'ai vu faire du skate.
Yeah.
T'es vraiment un chier.
Bon, on est bien d'accord qu'on est dans la version française, là.
Hein? Absolument.
D'accord, ok. Alors, pourquoi avoir choisi la fin de ce Satané Monde, hein?
C'est un accent québécois, là.
Mais je l'ai trouvé magnifique. Je trouve les acteurs, ils sont prodigieux. La jeune fille, c'est Jessica Barden et le garçon, c'est Alex Lothar. Mm-hmm. Et ils sont extraordinaires. Et c'est une série, voilà, c'est des adolescents, mais ça peut plaire à tout le monde. C'est aussi réaliste qu'absurde. C'est terriblement bien écrit, c'est extrêmement bien filmé. C'est une série qui a failli pas voir le jour. Les réalisateurs, on leur a donné à peine de quoi faire la série. Et ils ont tellement réussi. Comme quoi, avec peu, on peut faire des merveilles quand on y met son talent, tout son cœur. C'est extrêmement bien réalisé. Et puis, c'est barré, quoi. Bien sûr, c'est barré. Mais au fond, à la fin, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Et puis, ouais, les acteurs, ils m'ont bouleversé. Et puis, les cadres, tout, je sais pas, c'est bien filmé. C'est vraiment, ça passe très, très vite. Et j'ai hâte qu'ils fassent la saison 2.
Pour l'instant, mais ils sont en train,
je crois. Ouais.
Toutes les raisons sont réunies pour se précipiter sur The End of the Fucking World. Voilà, alors il me manque une chanson, et votre chanson cette fois-ci, c'est celle-ci. If I was your girlfriend, would you let me dress you? I mean, help me pick out your clothes before we go out. Not that you're helpless, but sometimes. Sometimes those are the things that being in love's about. If I Was Your Girlfriend, c'est le titre du morceau. C'est pas une proposition que je suis en train de vous faire de Prince. C'est un morceau de 1987. Passion totale pour
passion
Prince.
Passion totale, passion, amour total depuis mes 11 ans. Ça n'a jamais cessé. Et puis, ouais, je l'adore. J'adore l'écouter, j'adore le voir. Il sait aussi bien écrire des chansons, réaliser ses albums, danser, chanter. Je le trouvais beau. Tellement beau aussi quand j'étais adolescente, même tout petit qu'il était et tout. Puis non, bah c'est le héros de mon enfance. Et puis il c'est lui qui m'a donné le goût de la musique soul aussi. C'est à travers lui que j'ai découvert tous les grands de ce genre de musique. Et puis ouais, une vraie passion Prince.
Vous avez écouté cet album qui est sorti il y a quelques semaines, des versions démo en fait de lui seul au piano?
Non.
Mais il faut vous précipiter là-dessus.
Mais, oui. D'accord. Ouais.
Sorti il y a très peu de temps. Hein, Charline,
ouais, je me souviens plus de la date.
Elle me fait « c'est parce qu'elle ne se souvient pas de la date. » Alors que vous devriez, Charline, vous souvenir de la date. Bon, enfin, c'est pas grave. Je résume le vol de la Joconde. César et Rosalie, The End of the Fucking World, Prince. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi.
Je crois que je suis un psychopathe. Salut.
S'ils étaient entendus aujourd'hui par un juge d'instruction, nul doute que leur pire crainte se fût réalisée.
Je t'ai vu faire du skate.
Yeah.
T'es vraiment un chien.
Voilà ce qui trotte dans la tête de Vanessa Paradis en ce 20 février 2019. Ça vous convient?
Très bien.
Très bien. Alors on continue. Vanessa, avant de parler des sources, votre 7e album, écoutons un morceau d'un autre artiste qui aurait dû, qui aurait pu être dans votre pop-list, Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.
Mm-hmm.
Marvin Gaye, I heard it through the grapevine, dans Pop 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 sur France Inter, pour le plus grand plaisir de Vanessa Paradis, notre invitée d'aujourd'hui dans Pop Pop Pop. Vanessa, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler des sources, hein, votre 7e album. Il va donc être question de musique dans quelques instants, mais l'actualité nous invite hélas à dire deux mots de la disparition de Karl Lagerfeld, qui a, je crois, beaucoup compté pour vous. C'est lui qui a eu l'idée de vous transformer en oiseau, de vous enfermer dans une cage.
Non, c'était Jean-Paul Good. À l'époque, ouais, j'ai commencé très jeune à travailler avec Chanel à 18 ans, puis ça pendant 4 ans, 5 ans. Et ça s'est arrêté un moment. Et quand j'ai recommencé à travailler avec eux, c'est grâce à Karl, qui m'a invité un jour à un défilé, puis qui m'a offert plein de campagnes qu'on a fait ensemble. Il faisait les photos et c'est lui qui m'a réinvité dans la maison Chanel et qui m'a plus jamais lâché.
Quelle image gardez-vous du Kaiser, comme on l'a appelé?
Ben, la gentillesse. Alors c'est vrai que il fallait qu'il vous aime pour être aussi gentil, quoi, et que quand il aimait pas, mais c'est quelqu'un
d'attentionné.
Tellement d'attentionné, d'une grande tendresse en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand il aimait les gens, c'était la gentillesse, la fidélité, la tendresse. Il avait les yeux les plus doux que je connaisse, je crois. Et c'est pour ça qu'il les montrait rarement. Mais dès qu'il tombait les lunettes, je crois qu'il faisait fondre tout le monde. C'était assez merveilleux de travailler avec lui, que ce soit dans le studio de mode ou dans son studio photo, parce que des équipes très très remplies autour de lui, il avait des mots et des attentions pour tout le monde, peu importe quelle fonction. Enfin, c'est quelqu'un qui aimait les gens avec qui il travaillait, les gens avec qui il travaillait le vénéraient parce qu'il était attentionné. C'était pas quelqu'un qui faisait comme ça, il mettait les gens, il les mettait
en valeur, oui.
Ce travail, enfin c'est vrai que c'est une grande maison de mode, mais c'est vraiment une maison extrêmement artisanale, et que voilà, tout le travail de chacun était toujours mis en avant, oui, exactement, et c'est pour ça que voilà, ces équipes, elles sont les mêmes depuis des décennies, et que là tout le monde est terriblement triste, même si il a vécu une longue vie bien remplie, qu'il a travaillé jusqu'au bout, et que voilà, on sait bien que, mais c'est terrible en fait, c'est terrible de plus revoir les gens qu'on aime et qui vont nous manquer beaucoup beaucoup, et voilà. Lui, c'était hier, c'est encore choquant, c'est choquant.
Ouais. Lui avait, semble-t-il, gardé un excellent souvenir de votre collaboration, puisque c'est à la suite de cette campagne qu'il s'est mis pour de bon à la photo et qu'on l'entendait toute la journée dire « Le petit toisson va sortir
!» On ne vous dit pas les accents.
Oui, d'accord, pas les accents.
Vanessa Paradis, ce 7e album dont vous venez nous parler s'appelle « Les sources ». Quelles ont été les vôtres pour ce disque?
Je voulais mettre les choses que j'aime le plus dans la musique, c'est les cordes et les cuivres de la musique soul, même si je fais pas de musique soul. On peut toujours s'en servir pour décorer sa musique, et je savais aussi que j'avais très très envie de travailler avec Paul Butler, qui a réalisé ce disque, dont j'admire énormément le travail, et il a fait plein de choses. Il a un groupe qui s'appelle The Bees, il a réalisé plein d'albums, dont ce premier album de Michael Kiwanuka qui s'appelle Home Again, et qui m'a rendu dingue. Ouais. Cet album, du début à la fin, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est beau, on peut encore faire un son comme ça, vintage, mais avec la modernité, enfin la simplicité ou l'épuration d'aujourd'hui. Mmh. Et voilà, je rêvais de travailler avec lui depuis longtemps. Et là, puis j'aime bien un peu les... Enfin, je l'aurais... Il venait de l'île de Wight, il a passé sa vie sur l'île de Wight. Mais au moment où je lui ai demandé de travailler avec moi, il venait de s'installer en Californie, où je passe beaucoup de temps, parce que mes enfants en sont à moitié. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux, des expatriés à Los Angeles, à faire de la musique ensemble, et c'était magique.
Quand vous dites réaliser, c'est ce qu'on se précisait tout à l'heure hors antenne, c'est-à-dire qu'il a fabriqué le disque, y compris les arrangements.
Oui. Ouais, bien sûr, il a.
J'insiste dirigé... là-dessus parce que les arrangements sont somptueux.
Oh, ben ouais, c'est merci. C'est celui qui réalise, qui met en place, qui dirige les musiciens, qui choisit quel musicien, qui choisit quel instrument. Alors évidemment, on fait ça ensemble. C'est lui le réalisateur, c'est lui le prodige. Mais on a beaucoup travaillé ensemble pour faire le disque dont je rêvais et puis mettre mes idées, que ça me ressemble et que j'ai la sensation de qu'on m'ait pas simplement servi.
Ouais. Alors pour préparer cet album avec Paul Butler, vous aviez préparé des playlists. Ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait y entendre?
Ah bah beaucoup de musique soul, mais du jazz aussi. Enfin, je préparais des playlists pour lui parler de tel arrangement de cordes ou de tel son de batterie ou tel son de guitare. Et puis c'est comme ça qu'il a appris à découvrir ce que je cherchais. Puis c'est il est multi-instrumentiste. En plus, il joue de tous les instruments, mais même des cuivres.
Sur l'album, y compris.
Oui. Ouais. Et il est terriblement créatif. Il faisait beaucoup de projets en même temps que mon disque. Donc c'était. Mais quand on se retrouvait, voilà, on était ensemble. Mais c'était bien parce qu'on a enregistré le disque par plage comme ça. Donc il y a eu des semaines où on se voyait pas. Moi, je travaillais chez moi. Lui, il faisait ses autres projets. Mais quand on se retrouvait, on avait plein de choses à se dire et à faire.
Sur les sources, des chansons signées Vanessa Paradis, paroles et musique. La première fois, si l'on accepte Jacques Addis sur Divine Idylle, qu'est-ce qui vous a donné envie de...
C'est pas la première fois, mais c'est vrai que j'en écris moins que mes collègues, mais non, c'est pas la première fois. Depuis Bliss, en fait, j'ose chanter mes chansons. Mais
Ça vous donne envie de le faire de plus en plus?
Le rêve, ce serait de le faire complètement. Parce que je trouve ça admirable, les artistes, enfin, les chanteurs qui chantent. Voilà, tout ce qu'ils chantent, c'est eux qui l'ont créé, qui l'ont fabriqué. Mais j'ai pas du tout la sensation d'écrire que des grandes chansons ou pas, en tout cas des chansons qui me plaisent à chanter. Et ce que je préfère, c'est chanter des bonnes chansons, donc j'en prends encore et j'en demande encore aux autres.
Alors justement, on trouve aussi sur les sources des chansons signées Samuel Benchetrit, Fabio Viscogliosi, Adrien Gallo. Vous leur avez laissé quartier libre ou vous leur avez donné un fil conducteur?
Non, quand même assez quartier libre. Enfin, Adrien Gallo, avec qui j'avais déjà travaillé, m'a demandé, tu vas parler de quoi? Donc, pour être vague, plus vague au possible, j'ai dit, parlons d'amour. Comme ça, ça fait toujours plaisir à tout le monde et à moi en particulier. Mais non, c'était assez quartier libre. Je dois dire que j'ai été gâtée parce que et Adrien et Fabio et Samuel, ils ont vraiment pas été avares de chansons et ils m'en ont proposé plein, puis après j'ai choisi celle que je préférais. Et c'était bon en fait. Ce qu'il y avait de super aussi, enfin, faut bien qu'il y ait des avantages à être loin de chez soi et des siens. C'est que on est très très concentré sur ce qu'on fait. Il y a aucune distraction, il y a pas les dîners chez les copains, les trucs comme ça, parce que le gros de mon monde il est en France. Donc j'ai vécu pour cet album jour et nuit tout le temps et jusqu'au mixage qui était mixé par l'excellent Chad Black. J'ai fabriqué mon disque avec l'aide du talent extrême de ceux qui ont participé.
Vanessa Paradis, Les Sources, c'est un album qui est attendez, je vais laisser à Laurent Delahousse le soin de poser la question.
C'est aussi ça ce qu'on retrouve dans cet album, un besoin d'évasion, un besoin... Il est très solaire, c'est ce qu'on disait juste avant de se retrouver. Je suis bien placé dans un journal télévisé, dans un contexte depuis des années. C'est ça que vous vouliez nous apporter, un peu d'air, un peu d'espoir.
Bon, on n'a pas toute la nuit, alors comment qualifiez-vous cet album, Vanessa?
Solaire, ça me va, hein, parce que... Je dois dire que quand moi je travaillais à mes chansons que je compose guitare voix et qui sont souvent des ballades, ça peut être un peu triste quoi. Et je me disais mais absolument pas un album pour les jours de pluie, absolument pas. Je veux faire quelque chose de qui fait du bien, qui me fait du bien à moi en premier, mais voilà quelque chose qui peut réconforter. Donc je voulais qu'il y ait de la lumière, surtout pas de la pluie, de l'orage, du noir. Et donc il a pas tort.
C'est une bonne analyse. Vanessa Paradis, vous fêtez cette année vos 31 ans de carrière, si on accepte l'école des fans en 80, si je ne m'abuse. Si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez des choses?
Non. Bah non, c'est trop facile à dire maintenant. Non, parce que ce qui n'a pas été forcément joyeux ou heureux m'a évidemment appris beaucoup et m'a emmené sur le reste de ma route. Donc non. Puis franchement, je serais sacrément ingrate avec tout ce que j'ai eu la chance de vivre et avec qui partager tous ces projets musicaux et cinématographiques.
Vanessa, les chanteuses comédiennes ou les comédiennes chanteuses, c'est une noble lignée où se sont illustrées des Shirley MacLaine, des Julie Andrews, des Barbara Streisand, Judy Garland, Liza Minnelli. Et j'imagine qu'à un moment, vous avez dû y songer, ça a dû vous traverser l'esprit. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de franchir le pas, d'y aller?
D'y aller où?
Comédie musicale.
Mais
chanter, jouer, danser sur
scène. C'est mon rêve d'enfance. Mais d'abord, j'ai pas été très productif pour faire bouger le projet, quoi. C'est vrai que j'ai pas été chercher les sujets et les gens et les musiciens pour mais parce que j'étais bien occupée à d'autres choses que je faisais. Non, c'est mon rêve, hein. C'est grâce aux comédies musicales que je fais ces deux métiers, que ça me fait hurler, ça me fait même pleurer les comédies musicales tellement ça m'émeut. Donc non, ça serait le rêve. Après, derrière toutes les comédies musicales de la MGM, celles de Bob Fosse, qui sont mes préférées, c'est vrai que c'est délicat. J'aimerais tellement, et c'est pas non plus impossible. Il faut réunir trois gros talents d'écriture, de composition et de chorégraphe. Et puis, n'a pas arrivé à l'âge des courbatures aussi. Un jour, ça va m'être interdit. Oh, quand
même. M'en parlez pas.
Damien Chazelle tourne en France, hein, me semble-t-il.
Qui ça?
Damien Chazelle. Je dis ça, je dis rien. Vous verrez bien chez lui.
Bon, c'est juste une suggestion. Et de toute façon, les trois grosses pointures nous écoutent, j'en suis sûr, en ce moment. Donc, ce projet va se concrétiser très rapidement. Vanessa Paradis, vous restez avec nous. On va continuer à papoter tout à l'heure. Est-ce que vous allez faire ça maintenant?
La dernière fois.
Il était,
parfait.
Je préfère celui-ci. Encore plus sophistiqué. Plus net. Très bien. Bon, c'est pour lancer les pop news.
20 ans après Flatbeat, il revient, Monsieur Oiseau, a.k.a. Quentin Dupieux, nous propose désormais son rythme plat.
È sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo.
Rythme plat, l'un des 4 titres qui figurent sur le nouvel EP de Monsieur Oiseau qui sortira le 22 mars chez Headbanger, bien sûr.
Tiens, une comédie musicale, Quentin Dupieux, Vanessa Paradis.
Voilà, aussi.
ça serait spécial, ouais.
Lutte des classes au paradis, ce pourrait être le sous-titre de la série Miracle Workers. Daniel Radcliffe y est Craig, un ange du bas de l'échelle, chargé de réceptionner toutes les prières de l'humanité pour laisser à Dieu, Steve Buscemi, le temps de chiller ou détruire la Terre. Ambiance.
In this story, God is terrible and Earth is just a mess.
I've decided to blow up Earth. Who wants to help me save this planet?
If I answer one of these prayers, you spare Earth.
It's a bet.
I love any kind of crazy imagined world, and I think this would be a nice version of heaven. I would like it to be like this. Actually, would I? It's pretty chaotic and badly run.
Miracle Workers, ça démarre le 30 mars sur Warner TV.
Rencontre au sommet entre Charlize Theron et Seth Rogen. Il est journaliste, elle est une femme les plus puissantes de la planète. Ils se retrouvent plusieurs années après leur rencontre quand elle le babysitait. Le film s'appelle Long Shot. Séduis-moi si tu peux, en français. Mais comme cette première bande annonce est en VO, je vais rester sur Long Shot si ça va à tout le monde.
Mais oui.
The Secretary of State looking at us?
I kind of know her.
It's like kind of knowing a mermaid. Do you tell people that?
She probably doesn't remember who I am.
Secretary of Field would like to speak with you.
With me?
I can't shake this feeling that we know each other.
We do.
We do?
Picture me, I guess, maybe like 20 years younger, but like this.
Florsky?
Yeah!
It's really nice to see you again.
Oh! Ouch!
Long Shot, Séduis-moi si tu peux, de Jonathan Levine, ce sera le 15 mai sur les écrans.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaux.
Oui, c'est moi.
Oh, je l'ai pas.
Moi non plus.
Ah, ok.
Et je le rends alors.
Merci Charline, Vanessa Paradis, ne bougez pas. Écoutons ensemble un nouvel extrait de votre album Les Sources, et cette fois-ci c'est La Plage. mais enfin, un pain technique, ça s'appelle. Nous étions là en train de papoter.
C'est surtout ça, on était en train de papoter.
Vas-y, Antoine. Enfin, en plus, en plein Vanessa Paradis, qui est notre invitée d'aujourd'hui. Alors vraiment, Ghislain Fontanus.
Mais je papotais aussi. Donc
bah oui, c'est vrai, nous papotions. Bon, c'était un extrait de l'extrait de La Plage du 7e album de Vanessa, extrait des sources. Vous écoutez donc Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes toujours en compagnie de Vanessa Paradis et vient de nous rejoindre Renan Cros.
Ben oui, c'est moi.
Bonjour,
bonjour Renan.
Bonjour Charline, bonjour Antoine, bonjour Vanessa. Bonjour.
Est-ce que votre maman nous écoute?
Eh oui.
Evelyne?
Oui.
On peut l'embrasser?
Allez-y.
On vous embrasse,
bonjour,
Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bisous Evelyne.
Oh voilà.
Elle est bien, c'était
content.
Hein
bon.
C'est Vanessa Paradis qui t'embrasse maman.
De quoi on parle aujourd'hui, Renan?
Eh bien on parle, Vanessa, vous n'êtes pas sans savoir, fidèle auditrice de Pop Pop Pop, que la semaine dernière, à l'occasion de la Saint-Valentin, j'attendais des fleurs d'Antoine de Caunes. J'attendais des chocolats de Charline Roux. Je n'ai rien eu.
Vous avez eu des chocolats, j'ai apparemment.
J'ai eu... Ah là, encore une blague grossophobe d'Antoine de Caunes. Voilà, tout va bien. Je ne crois plus en l'amour, Vanessa. Je n'y crois plus. Je suis un être délaissé. Est-ce que jamais je serai une pretty woman? Est-ce que moi, j'ai pas le droit à mon coup de foudre à Notting Hill?
Si, donc,
bien sûr,
ne vous parle plus. Vous m'avez blessé. Et je suis un être.
Bon, parlez à Vanessa, alors, oui. Elle vous écoute.
Alors, Vanessa, en fait, je ne crois plus à la comédie romantique. Et je vous demande des comptes, parce que vous êtes aussi l'une des reines de la comédie romantique, l'arnaqueur. Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous avez fait aux gens de vous en croire que la société, allez, on allait trouver le coup de foudre? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Un amour de sorcière. Pareil, moi, j'y ai cru. J'étais jeune, j'y croyais. Alors, je vous écoute, Madame Paradis, expliquez-moi.
Ah ben non, mais il faut, on peut jamais arrêter de croire à l'amour. Il faut arrêter de vivre si on croit plus à l'amour. C'est la seule raison de vivre, alors.
Ah oui, mais les films nous vendent comme ça, des princes charmants, des princesses, des choses comme ça. Ça n'existe pas, c'est d'ailleurs le sujet.
Renan, vous n'êtes pas obligé de passer votre vie au cinéma. Vous pouvez aussi rester dans la vraie vie et chercher l'amour.
Non, ça n'existe pas. C'est le sujet d'un film qui sort le 28 février. Alors, c'est un film qui devait sortir en salle et qui finalement sort sur Netflix. Ça s'appelle Isn't It Romantic et c'est très drôle.
Going crazy. I hit my head really hard and I woke up in this alternate universe. And now I have a gay sidekick who's setting gay rights back like 100 years.
I love working the legs.
Jesus! And guys look me in the eyes.
You're quite beguiling, aren't you?
Are you feeling what I'm feeling?
No!
Oh my god.
Ça s'appelle Isn't It Romantic, c'est avec Rebel Wilson, et c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne croit plus du tout à la comédie romantique. Ça se tombe bien parce que sa mère Jennifer Saunders lui a dit, écoute ma chérie, il faut que t'arrêtes de regarder des comédies romantiques, la vie ce n'est pas Pretty Woman. Et donc elle n'y croit plus, et elle a un mauvais coup, elle tombe et elle se réveille dans une comédie romantique, mais une vraie, c'est-à-dire avec une chanson pop comme ça qui l'entraîne, avec un prince charmant évidemment, milliardaire qui lui offre des fleurs, avec son meilleur ami Fabulous qui lui donne des conseils, et elle en peut plus. Elle ne supporte plus la comédie romantique, où évidemment tout le monde se tient par la main, tout le monde finit par tomber amoureux. Évidemment, dans une comédie romantique, les femmes ne sont pas amies. Elles sont ennemies dans une boîte. Voilà. Donc, il y a tout un truc. C'est très rigolo comme film. C'est un peu l'Inception de la comédie romantique. C'est une comédie romantique dans la comédie romantique dans la comédie romantique.
C'est la vache qui rit.
C'est la vache qui rit, c'est-à-dire.
Bah, l'Inception. La vache qui rit qui est dans la vache qui rit qui est dans la vache qui rit.
Oh, très bien, je laisse les auditeurs réfléchir à cette phrase.
Une métaphore fromagère.
C'est une belle métaphore fromagère. Très bien. Donc ça s'appelle Isn't It Romantic, c'est très drôle. Rebel Wilson, actrice géniale. Ça prouve quoi en fait? Ça prouve que la comédie romantique aujourd'hui, elle réfléchit sur la comédie romantique. Ça prouve la question aussi de l'idéal. Est-ce qu'on a le droit de croire à l'idéal de la comédie romantique? Eh ben en fait, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de comédies romantiques qui ont été très modernes, qui ont réfléchi là-dessus. Et c'est notamment Le Retour 2.
What? Il revient.
Mouillé, effectivement. C'est le retour de mouillé. C'est quoi, Vanessa? Est-ce que vous avez reconnu de quoi je parle? Cette chanson.
C'est quoi? C'est marié à tout prix, non? Pas. C'est quoi? Quoi? C'est quatre mariages et un enterrement.
Mais exactement. Il y a eu un très joli mime de Charline Roux que personne n'a vu à la radio. On était sur un Time's Up. Cette émission part en Time's Up.
J'ai aimé quand elle a fait le mariage.
Oui, c'est vrai.
Moi, je faisais l'enterrement.
Et oui, quatre mariages et un enterrement. La comédie absolue des années 90. Le film qui a questionné aussi, quatre mariages et puis un enterrement aussi, qui a questionné la comédie romantique, va revenir en série. Je sais pas si vous le saviez. Richard Curtis va signer une série à partir de quatre mariages et un enterrement. Mais récemment, Entertainment Weekly, le grand magazine, a fait sa couverture avec le mariage de mon meilleur ami. Vous vous souvenez du mariage de mon meilleur ami? Ils étaient tous là en couverture. La comédie romantique est partout. On en a vraiment besoin. En tout cas, on réfléchit sur la comédie romantique. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai un roman là-dessus. Il y a une auteure formidable qui s'appelle Marianne Lévy qui a eu pour mission de réécrire Cendrillon. Et Marianne Lévy, elle a dit, mais moi, à réécrire Cendrillon, j'ai pas envie de réécrire l'histoire de la chaussure, ça gonfle tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prince charmant. Et elle fait quelque chose de formidable, c'est qu'elle réécrit une comédie romantique du point de vue d'un mec. On l'a rarement lu, ça. C'est-à-dire, c'est quoi le fait d'être un prince charmant? Comment Cendrillon a imposé aux gars comme moi d'être un prince charmant. Mmh. Et ben, c'est très compliqué. C'est l'histoire de Samuel, qui est un brave type qui a une malédiction dans la vie. Il est le sosie de Hugh Grant dans Quatre mariages et un enterrement.
Oh, le pauvre.
Et c'est une malédiction.
C'est vraiment le sosie?
Oui, il est le sosie.
C'est peut-être Hugh Grant.
Alors, on ne sait pas. Lisez le livre, vous verrez. Ça s'appelle Chaussures à son pied aux éditions Pygmalion. C'est très drôle. Et surtout, Marianne Levy, elle a vraiment une propension à écrire de la comédie romantique moderne. C'est-à-dire que la plaie de ce personnage, c'est de ressembler à Hugh Grant et d'être à la hauteur du prince charmant qu'il est censé devoir être dans les yeux des femmes. Moi, ça m'arrive souvent, hein, les gens me confondent avec Ryan Gosling et je leur dis que je n'ai pas.
Ça cause du blouson?
Ça doit être ça. C'est vraiment très drôle. Et surtout, ce que raconte Marianne Levy et qui est très important, c'est qu'en fait, c'est pas la peine de raconter des histoires pour raconter des histoires. Vaut mieux s'amuser avec les histoires. C'est ça qu'elle raconte. Et c'est ça que fait la comédie romantique. Titre romantique disponible le 28 février sur Netflix et Chaussures à son pied, et je vous l'offre, Vanessa.
Ah, c'est gentil, merci.
Oh, mais comme c'est courtois.
Chaussures à son pied de Marianne Levy aux éditions Pygmalion. Si vous en faites un film, je viendrai le voir, évidemment.
Mais comme c'est aimable. Et vraiment, je tiens à vous rassurer, Renan, parce qu'à force de passer votre vie sur Tinder, vous allez finir par le trouver, l'amour, je vous promets.
C'est vous, Antoine, mon amour, mais j'ai compris que ça ne se passe pas.
Ah, allez,
c'est gênant.
Evelyne, vous n'avez rien entendu. Bien, Vanessa Paradis, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission, et j'y vais. De ce pas, allez. Mais quel est cet endroit merveilleux où je me trouve, je Ce n'est pas ma cave. Cette lumière céleste, ces nuages vaporeux, ces angelots qui volettent cul nu. Mais je suis au paradis.
Bonjour, mon enfant.
Oh, bonjour, père Fouras.
Je ne suis pas le père Fouras. Je suis Saint-Pierre.
Ah. Bonjour, mon Pierre.
Comment t'appelles-tu ?
Antoine.
Quel âge as-tu, Antoine ?
65 ans, mon Pierre.
Ah, désolé. C'est beaucoup trop vieux pour nous.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Les portes du paradis se sont fermées, je suis tout seul dans ma cave. Ah, heureusement, mes disques sont toujours là. Tiens, un petit Rolling Stones. Allez, Jumping Jack Flash.
Back to
Rolling Stones, Jumping Jack Flash dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau extrait de l'album Livers and You'll Ever Be, sorti en 69. Alors j'étais à la cave il y a quelques instants, Vanessa, et j'ai coutume de demander à tous mes invités s'ils auraient l'amabilité de laisser un objet en souvenir dans cette cave.
Ou moi, c'est peut-être un peu exagéré, moi je voulais bien vous laisser quelques places de concert, quoi. Je vous laisse 3 places de concert. Sinon, est-ce que vous avez à manger dans votre cave, il faut, je vous laisse un gratin de pâtes.
Un petit gratin de pâtes.
Un truc, parce que, bon, faut bien, vous y restez longtemps ou...
Je passe beaucoup de temps, oui.
Un gratin de pâtes de Vanessa Paradis, c'est pas le même goût.
À manger, ce serait une meilleure idée que des places de concert, en fait.
C'est-à-dire que la légende qui veut que vous soyez fan de Top Chef est vraie, en fait.
Non, c'est vrai, j'adore.
Gratin de pâtes, votre plat signature.
Non.
Petit gratin de pâtes.
C'est des artistes, les chefs.
Des grands artistes.
Ouais, grands artistes.
Un petit gratin de pâtes dans ma cave, je vais planquer dans un coin parce que Roland Gros va se précipiter dessus.
C'est assez rapide
parce que je vais y aller. Ouais.
Mais on a parlé de cinéma, on a parlé de musique dans cette émission. Vos deux passions dont vous vivez très bien, vous réalisez tout à fait à la fois dans la musique et dans le cinéma. Comment est-ce que vous décidez de passer de l'une à l'autre ?
La musique, ça me prend beaucoup de temps quand on s'embarque sur les routes des concerts. Donc et puis ça, c'est un engagement qu'on prend un an à l'avance et que on doit être au rendez-vous. Donc c'est une responsabilité, quoi. Donc ça, donc là, il peut pas y avoir de cinéma. Et puis après, le cinéma, c'est le désir des cinéastes d'offrir un rôle ou pas. Et ça c'est vraiment à leur bon vouloir.
Mais donc, vous gardez la maîtrise sur le tempo ?
Non. La musique, oui. Le cinéma, non, j'ai pas la maîtrise. Et puis, j'ai une position hyper privilégiée que de choisir. Évidemment, plus parce que j'ai la musique. Donc, je fais pas des films que j'aime moyennement. Et quand il y en a pas qui me plaisent, j'en fais pas.
Bien, on attend impatiemment le prochain qui sera tourné cet été avec Samuel Benchetri.
Ah oui, c'est le prochain film de Samuel et c'est une comédie poétique.
Très bien, nous attendons ça. Merci Vanessa Paradis. Jean-Paul, merci d'être venu nous voir, ça nous touche beaucoup à chaque fois. Je rappelle que votre album Les Sources est disponible, que vous serez en tournée à partir du 13 mai. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission de franceinter.fr et c'est un album pop 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 bien sûr. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Stéphane Boja, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, Eric Osvald en Saint-Pierre et Alice Delcourt, notre stagiaire, sans oublier Evelyne, évidemment la maman de Ronan.
Qui n'est pas dans l'émission.
Mais qui nous écoute. Demain, dans Pop Pop Pop, on parle du film Le Chant du Loup avec l'acteur français François Civil et le réalisateur Antonin Baudry. Et avec nous en live, elle. Elle, c'est Maggie Rogers. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve, ou une Yeuvesse bien sûr à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme dit Saint-Pierre à la fin de ses tutos sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop 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 sur Instagram et Twitter.